Salut, salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Élodie Jouvenot. Elle est accompagnatrice en intimité consciente à Montréal. Vous ne savez pas encore ce que c'est ? Bah, Élodie est là pour nous l'expliquer. What's Next, c'est un podcast dans lequel je discute de carrière non linéaire, de temps qui passe et d'âge avec mes invités de tout horizon. What's Next, c'est aussi et surtout une newsletter dans un cadre privé et payant. Je vous envoie une missive par semaine tous les vendredis matins sur les thèmes de la midlife, dans des essais personnels, des articles de recommandations de livres, de séries, de films et puis des discussions avec vous, les personnes qui soutiennent ce projet. Ça coûte 7 dollars US par mois, un peu moins de 6,50 euros ou dans la version annuelle, ça coûte 70 dollars US ou 65 euros et ça donne aussi accès à un atelier d'écriture tous les derniers mardis du mois pour réveiller votre flamme créative à travers la création de textes personnels. Vous voulez soutenir ce mode de production indépendant ? Eh bien, rendez-vous sur whatsnextmathilde.substack.com. J'avais très envie de discuter avec Élodie parce que ça fait longtemps que je la suis, sans doute plus de 10 ans. Élodie est passée du web marketing à son travail actuel d'accompagnatrice en intimité consciente. Outre ce changement professionnel radical, il y a surtout eu un changement personnel et un éveil dont Élodie va nous raconter les grandes étapes. Voici Élodie Jouvenot dans What's Next. Salut Élodie, comment tu vas ?
Ça va bien, et toi ?
Ben ouais, ça va. Mardi matin, il fait pas très beau ici à Boston. Je sais pas quel temps il fait à Montréal.
On a un petit gris avec un peu de soleil.
C'est bientôt le printemps, peut-être. Élodie, tu es accompagnatrice en intimité consciente. Tu es guide, facilitatrice, initiatrice. Tu proposes du massage tantrique et tu as créé Ecstatic Temple, un espace intentionnel à Montréal pour explorer la sexualité. Alors ça, je l'ai lu sur ta bio Instagram et sur ton site, mais j'ai besoin que tu m'expliques ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être accompagnatrice en intimité consciente ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, déjà, c'est un terme que j'ai inventé parce qu'il n'y avait pas vraiment de nom pour le métier que je fais. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui vraiment... décrivez ce que je fais. Donc, j'utilise le terme d'accompagnement. On pourrait traduire par coach, mais il y a quelque chose pour moi dans le coach qui me rappelle trop les coachs sportifs là, qui vont te pousser go, 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 alors que c'est pas tout ça que je fais. Moi, je suis vraiment avec la personne où elle est et on avance tranquillement ensemble en fonction de où est-ce qu'elle a besoin de bouger, où est-ce qu'elle est. Et la dimension d'intimité consciente, je pourrais aussi l'appeler sexualité consciente. Je l'ai étendue à intimité parce que je travaille vraiment sur différentes sphères qui sont toutes reliées à la sphère intime. Donc, que ce soit la dimension de la sexualité, oui, mais aussi le rapport à soi, le rapport aux autres, notre lien avec notre propre corps, avec le plaisir, avec la communication, le consentement. Enfin, il y a vraiment tout un travail que je fais et la majorité du temps, mes clients arrivent avec une idée de « Oh, j'ai un problème sexuel ». Je fais des guillemets en ce moment. Et on travaille énormément de choses qui ne sont pas directement liées à la sexualité en apparence.
Est-ce que tu pourrais l'expliquer justement ? Enfin, l'intimité, ce serait quelque chose de plus large que la sexualité, mais la sexualité, ce serait quoi ? Parce que j'imagine que tu ne vas pas le réduire, la sexualité, tu ne vas pas réduire ça à la pénétration, si on est très direct.
Oui, effectivement. Mais tu vois, c'est une de mes questions préférées à poser à mes clients. C'est quoi le sexe pour toi ? Quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ça finit ? Et les réponses sont toujours différentes. Dans mon monde à moi, la sexualité, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement large. Je dirais que c'est à partir du moment où il y a une énergie, où on ressent une énergie sexuelle, une énergie érotique. Donc ça peut commencer dans un regard, ça peut être dans notre sensation de notre corps quand on ressent un grand plaisir. Et ce n'est pas nécessairement lié à une interaction avec un autre humain. Il peut y avoir des expériences érotiques très puissantes dans la nature face à quelque chose d'extraordinairement beau, par exemple. Donc, c'est pour ça que sexualité, pour moi, c'est un mot qui est beaucoup plus large que ce que la majorité des gens imaginent. Et ceci dit, effectivement, il y a une dimension physique à la sexualité qui peut, dans notre monde normatif, représenter, être représentée par une pénétration pénis-vagin, éjaculation. Donc, ce qu'on imagine que le sexe est pour la majorité des gens.
Est-ce que maintenant, si je reviens sur le deuxième, la deuxième ligne de ta bio en ligne, le massage tantrique, qu'est-ce que c'est ça, le massage tantrique ?
Le massage tantrique, c'est un terme qui est, encore une fois, moi, que j'utilise sans utiliser. c'est une forme de massage de soin qui implique un toucher de tout le corps, incluant la partie génitale. Donc, il y a vraiment une pratique qui est de d'éveiller le corps au complet avec différents sens. Fait qu'il y a du toucher, oui, mais dans mon cas, j'utilise les sons, j'utilise la méditation, j'utilise les odeurs. Et l'idée, c'est d'ouvrir la personne à ressentir plus de choses, à ressentir plus de plaisir, mais pas que. Et de venir libérer certains blocages, que ce soit des blocages énergétiques, des tensions, de stress, etc., en utilisant la dimension érotique. Donc, c'est pour ça que c'est un massage qui peut impliquer la région génitale, parce que c'est une zone qui est extrêmement oubliée. Quand on va se faire masser, la majorité du temps, on ne touche pas à cette zone-là. Et quand on fait l'amour, la majorité du temps, ça se passe seulement dans cette zone-là. Donc, il y a vraiment une intention de reconnecter toutes ces sphères. Et de... C'est bizarre à dire, mais de désexualiser la dimension érotique et le plaisir en étant dans un espace dans lequel il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de performance. C'est juste à propos d'être dans qu'est-ce qui est là. Donc, ce type de massage n'a pas un objectif d'aller vers un orgasme, mais plus de venir, comme avec n'importe quelle autre partie du corps, finalement, quand on va se faire masser, oh, j'ai une tension dans la nuque, on va avoir un massage qui va être plus orienté dans cette région-là. Et là, ce n'est pas nécessairement qu'on a des tensions au niveau génital, mais ça peut aider à ressentir plus, libérer des blocages. Voilà. Se détendre aussi.
Moi, je te suis depuis très longtemps sur Instagram et au départ, je lisais ton blog qui n'existe plus. Je ne sais même plus comment il s'appelait au départ.
C'est Mademoiselle Lane.
Tu parlais d'autre chose. Tu parlais de lifestyle, tu parlais de changement de vie à Montréal et ça. Et tu as petit à petit commencé à dire, si je me souviens bien, que tu faisais une formation en massothérapie. Est-ce que de ce que tu fais aujourd'hui, enfin, comment tu es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui en passant de cette formation en massothérapie et puis avant, tu penses que tu travailles dans la communication ou le marketing ?
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel pour devenir accompagnatrice en intimité consciente ?
Je vais reformuler ta phrase en la réappropriant. Mmh. Ce qui s'est passé dans mon parcours personnel, en fait. C'est vraiment ça qui s'est passé. Je suis arrivée à Montréal. Et la première année et demie, j'ai travaillé dans mon ancien domaine, donc en web marketing. Donc, je travaillais pour une compagnie ici de vêtements. Et longue histoire courte, je me suis fait virer d'une manière vraiment malpropre. Et je me suis retrouvée sans visa, donc avec des problèmes d'immigration. Et à travers de tout ce processus que je ne vais pas raconter en détail, j'ai découvert la massothérapie. J'ai découvert que j'avais de l'anxiété généralisée et qui se révélait à travers mon corps. En fait, mon corps était en réaction profonde et je souffrais physiquement, je faisais de l'insomnie. J'ai eu quelques années vraiment, vraiment difficiles qui ont toutes été dans ce processus en fait, de rester au Québec. C'était pour moi, il fallait que je reste. Et quand j'ai découvert la massothérapie, le massage, j'ai touché à quelque chose dans le lien entre le corps, la sexualité, le psychologique, le mental. Donc, je me suis intéressée un peu plus à ça. J'ai fait donc une formation de massothérapie à Montréal, au Québec, qui est 400 heures, donc que j'ai fait en attendant d'avoir mon visa définitif. Et quand je me suis retrouvée avec ma résidence permanente, j'ai décidé de finalement aller travailler en massothérapie et de ne pas retourner en web marketing. J'étais une période de ma vie où ma santé mentale était vraiment très, très, très mauvaise. Et à travers la massothérapie, à travers mes expériences de vie personnelles, j'ai eu un éveil spirituel. Donc, j'ai vécu des expériences qui étaient principalement liées à ma sexualité, dans lesquelles j'ai ressenti de l'énergie, j'ai eu des visions, j'ai comme vécu de quoi qui était extrêmement déstabilisant pour moi, parce qu'avant ça, je n'étais pas quelqu'un que je me considérais pas spirituel. Je ne croyais pas à l'énergie. Suite à ça, j'ai découvert le tantra, qui est le néo-tantra tel qu'on l'enseigne en Amérique du Nord, qui est une approche en fait de la spiritualité par la dimension érotique et physique. Donc tout ça m'a amenée à entendre parler d'une formation qui s'appelle Somatic Sex Education, donc éducation somatique et sexuelle, si je peux le traduire, ça se traduit très mal, qui est une formation plutôt pragmatique, en fait, qui n'est pas du tout ésotérique, qui n'est pas du tout basée sur l'énergie, que j'ai suivie pendant, c'est un cursus qui m'a au total pris 4 ans, et qui peut être fait plus rapidement.
Ouais. Qu'est-ce que tu appelles une formation pragmatique par opposition à une formation ésotérique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va avoir des implications concrètes dans le monde?
Pas nécessairement, merci pour ta question. Fait que c'est plus l'approche, en fait. Donc, quand on parle de tantra, et on va être plus dans une dimension spirituelle, on va parler de chakras, on va parler de circulation d'énergie, on va parler de connexion du cœur. Donc, des termes qui ne vont pas nécessairement prendre source dans notre culture. Pragmatique dans le cadre de Somatic Sex Education, c'est qu'en fait, c'est basé sur des recherches sur le système nerveux. C'est basé sur des outils de consentement, des outils de communication. Fait que c'est une approche en fait, qui vient travailler les questions de sexualité, mais à travers le corps. Donc, il y a beaucoup d'approches qui sont plus dans le mental avec la thérapie, la psychothérapie, la sexothérapie. Là, ça se passe dans le corps, mais cette approche-là est basée vraiment sur des recherches, je dirais, scientifiques. Donc on n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit, de croire qu'il y a de l'énergie, de croire qu'il y a des chakras. C'est ça que j'appelle pragmatique dans ce contexte-là. Fait que pour continuer et terminer mon histoire, donc j'ai fait cette formation. Au travers de ça, j'ai aussi fait énormément de travail sur moi, à travers mes propres traumas. J'ai réalisé que j'avais des traumas d'abus sexuels. J'ai travaillé entre autres en tant que cliente avec une approche qui s'appelle Somatic Experiencing, qui est spécialisée dans la résolution de trauma, encore une fois, par le corps, donc par le ressenti corporel. Et j'ai fait beaucoup de formations et d'explorations dans le monde plus tantra et chamanisme. Tout ça mélangé avec une curiosité que j'ai depuis que je suis adolescente sur tout ce qui est sexualité et toutes les formes de sexualité, d'expression de la sexualité, incluant le kink, le BDSM. Donc voilà un petit peu le cheminement. C'est vraiment un cheminement personnel qui m'a amenée à découvrir ce métier. C'est pas quelque chose qui s'est dit « Oh, je veux faire ça ». C'est arrivé de manière complètement organique. J'ai fait un pas dans un truc et là, il y a un autre truc qui s'est présenté à moi et un autre truc, et un autre truc, et un autre truc. Et je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Et c'est pas terminé, ça continue.
Mais ma question, c'est quand tu fais cette exploration et ces formations, j'entends bien que c'est une exploration personnelle. Tu continues à côté d'être masseuse, de proposer des massages. Est-ce que tu te dis qu'il va y avoir, est-ce que tu as quand même en tête qu'il va y avoir une visée professionnelle à ce que tu fais ou tu le vois juste comme un développement professionnel, un développement personnel profond?
Ok, ben c'est mon métier, je vis de ça et je vis bien de ça. Mais le parcours initialement, je dis personnel parce que c'est vraiment quelque chose qui a émergé de mon expérience personnelle. C'est pas une pensée professionnelle de « oh, faut que je change de métier », c'est juste arrivé. Et c'est extrêmement relié avec mon chemin personnel, en fait. Donc, oui, aujourd'hui, c'est mon métier. J'offre plus de massages thérapeutiques classiques. Je fais seulement des massages tantriques et des sessions de coaching qui n'ont pas nécessairement d'implication de toucher ou quoi que ce soit.
J'ai une question justement sur ce personnel et professionnel et sur le privé, le public. Moi, à un autre niveau qui n'est pas lié à la sexualité, mais quand je partage des textes, pour moi, il y a des textes qui sont très intimes et qui sont très personnels. Et il y avait souvent une hésitation avant de les partager. Puis, ou alors, je l'aime les partager dans un certain cadre. Comment toi, quel a été ton cheminement dans le fait de dire... T'es en train de vivre un développement, un bouleversement. Je dis un bouleversement, c'est pas ton mot, mais un développement personnel. Et comment, en fait, tu dis, tu vas faire ton coming out et te dire, OK, je vais faire de quelque chose de personnel, ça va devenir un métier. Elle est où ta frontière entre l'intime, le privé et ce qui est out there, ce qui est dehors, quoi, ce qui est présenté de toi?
C'est une excellente question.
Parce que c'est souvent privé, la sexualité.
Ouais. Exactement, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qui s'est passé à travers ce cheminement-là, c'est que la frontière, elle est devenue extrêmement floue et pour moi, c'est pas négatif. Je vais nommer ça comme une intégration. Il y a vraiment une intégration qui s'est faite de qui je suis en tant que personne, de qui je suis en tant que professionnelle, de ma vie privée, ma vie professionnelle. Si tu veux, aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, c'est évident que la manière dont je vais me présenter face à mes clients dans des contextes professionnels, elle est pas 100% de moi. Il y a une partie de moi qui va se présenter dans ces moments-là et il y a des parties de moi qui vont seulement se révéler dans des espaces intimes, privés, avec des partenaires, avec des amis. Mais cette ligne est extrêmement fluide. Je vais te donner un exemple extrêmement concret. Donc, quand j'accompagne des clients, évidemment, je suis dans mon rôle de coach. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'eux. Ça m'arrive de donner des exemples de ma vie personnelle pour illustrer quelque chose. Et une autre chose qui est vraiment importante dans le travail que je fais, parce qu'il y a du toucher, parce que, alors, ce n'est pas quelque chose que je fais avec tous mes clients, mais je dois, moi, être extrêmement à l'écoute de mes propres limites et de mes propres émotions. Parce que la personne avec qui je travaille, elle veut le ressentir. Donc, ça m'arrive d'être vraiment très honnête et transparente quand je commence une rencontre avec un client, de dire « aujourd'hui, je ressens de la tristesse ». Puis ça, ce que ça permet, c'est pas de dire « c'est à propos de moi, je suis triste, on va prendre soin de moi ». C'est simplement de dire à mon client « si tu ressens quelque chose qui est lié à la tristesse, ça se peut que c'est à moi, c'est pas à toi ». Il y a une période, un moment dans tout mon processus où j'ai réalisé que je dépassais mes propres limites en donnant ce type de massage et j'étais plus confortable de faire ça. Donc, j'ai arrêté pendant quelques mois pour pouvoir retrouver un espace où j'étais un oui dans cette pratique. Ouais.
Mais ça a du sens et moi, je le vois aussi. Tu vois, j'ai une psy ici à Boston depuis super longtemps. Je ne sais pas quelle est son école de pensée, mais j'ai vu une coach aussi. Bon, elle était française, mais elle était dans un cadre assez nord-américain. Et j'ai souvent ressenti que ces personnes, elles ont la limite est claire entre qui est le patient et qui est ou le client et qui est le thérapeute. Mais c'est pas des personnes neutres, quoi. Elles vont quand même aussi donner un petit peu certains aspects d'elles qu'elles vont me communiquer. Et moi, ça m'aide aussi. Enfin, c'est pas des robots, quoi. J'imagine Exactement. Que toi, dans ton... Peut-être, je vois que toi, c'est un cran de plus parce que dans ma représentation, la sexualité, c'est un peu un cran de plus, quoi, que parler de...
Ouais. Problème. Mais c'est sûr que ça... C'est un travail qui est extrêmement relationnel que je fais. Puis je pense que tout thérapeute, il y a une dimension relationnelle. Et après, il y a différentes approches qui font qu'on est plus ou moins en relation avec les clients ou avec les patients. Pour moi, il y a vraiment beaucoup, on travaille beaucoup sur la dimension d'attachement aussi avec mes clients. Il faut que je sois un modèle d'attachement sécure pour eux. Sinon, ça peut créer plus de risques et de traumas parce qu'ils vont, à travers le travail qu'on fait, vivre des expériences qui sont très profondément émotionnelles et intimes. Et s'ils projettent comme quoi je suis la personne responsable de ça, on n'a pas fait le travail. Le travail est à propos du fait qu'ils réalisent que c'est en eux et qu'ils peuvent... En fait, moi, je fais office dans certains contextes comme de partenaire d'expérience, de pratique. Alors, je ne couche pas avec mes clients, je ne suis pas nue dans mon travail. C'est toujours un toucher qui est de moi vers eux, qui n'est pas réciproque. Mais j'offre un cas dans lequel ils vont pouvoir demander ce qu'ils veulent. J'ai envie d'être touchée de cette manière. Non, arrête. Continue. Donc, c'est vraiment un espace de pratique pour qu'ensuite, ils puissent le refaire dans leur vie avec d'autres personnes. Ça me demande d'être extrêmement vrai et authentique là-dedans, mais dans mon rôle, j'enfile un genre de... C'est ça, je mets mon masque de « Oh, aujourd'hui, je suis accompagnatrice, thérapeute » et c'est pas le même masque si je suis Élodie tous les jours. Puis, ça peut être d'ailleurs, mêlant pour certaines personnes parce que bon, je travaille avec des groupes et il y a une communauté autour de moi aujourd'hui, donc j'ai plusieurs dimensions. Et dans cette communauté, il y a des gens que je vois dans d'autres contextes et certaines personnes, ça m'est arrivé plus d'une fois, qui ont une idée de ce que je suis, puis ils me rencontrent dans un autre contexte, puis ils sont choqués. Pas nécessairement choqués de « Ah, c'est une horrible personne », mais ils ont comme une attente de ce que je suis supposée d'être. Parce que j'ai un rôle, je représente un rôle d'autorité, une figure d'autorité dans un certain contexte. Et là, je suis plus moi-même. C'est sûr que quand je croise des gens dans un festival je peux être dans un état altéré, je vais être un peu plus spontanée, peut-être faire des blagues. Et ça passe pas tous les jours. Et que j'ai appris à faire attention quand même avec ça.
Bon, ça m'évoque pas mal de choses, tout ce que tu me dis. Et ça m'évoque la question du consentement et par le biais d'un fait divers qui a eu lieu récemment aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a un sex club à New York qui s'appelle Hacienda.
Mm-hmm. Non, je ne sais pas. Non,
et en fait, il y a eu toute une histoire de consentement qui ont été brisés dans cette communauté. Quoi. Il y a eu tout un débat sur qu'est-ce que c'est le consentement, même dans ces communautés sex-positives et tout ça. Et moi, quand j'entends ce que tu me dis, c'est vrai que je me dis, c'est... on parle là de la frontière entre privé et personnel, ou, mais je me dis aussi, ouais, où est le consentement pour les gens, où est le consentement pour toi? Enfin, je trouve que c'est parce qu'on parle d'intimité, de sexualité, je trouve que c'est presque différent, mais c'est presque, il y a des parallèles avec la thérapie, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, et qu'est-ce que le thérapeute se permet, qu'est-ce qu'il se permet pas, et qu'est-ce que je dis. Toi, tu as dit que tu faisais des, on n'en a pas encore parlé, mais donc tu as un espace intentionnel pour explorer la sexualité qui s'appelle Ecstatic Temple. Mm-hmm. Et j'imagine que la question du consentement, elle est présente aussi.
En fait, le consentement, c'est vraiment au cœur des valeurs de Ecstatic Temple. C'est un espace, donc on a différents contenus, différents ateliers, différents événements qui sont tous basés sur des bases de consentement. Et dans lesquels les gens, en fait, il y a comme un parcours, c'est-à-dire qu'il y a différents événements avec différents niveaux d'intensité, et l'événement d'entrée, c'est un événement platonique dans lequel on pratique le consentement. Et après, éventuellement, une fois qu'on est bon avec ça dans un espace platonique, on va explorer peut-être dans un espace où il peut y avoir de la sensualité, puis ensuite peut-être un espace où il peut y avoir plus d'intensité sexuelle. Fait que c'est vraiment au cœur de ça, et tu sais, tout ce dont tu partages, tout ce dont tu parles, pour moi, ça vient toucher à des questions d'éthique qui sont extrêmement complexes, parce que il y a une question de morale, et là, ça vient s'inscrire dans qu'est-ce qui est la morale, qu'est-ce qui est l'éthique dans la société, dans la culture dans laquelle on vit. Et avec ce que je fais, on est en train de créer une nouvelle culture dans laquelle cette ligne-là, justement, thérapeute-patient qui existe chez les psys, où c'est extrêmement clair, on ne touche jamais le patient. Moi, je suis dans un espace où je fais quelque chose de différent. Alors, il y a des risques, il y a énormément de risques. C'est pour ça qu'il y a des ordres qui existent pour protéger les patients, des médecins, des psys, etc. Et j'avoue que je crée ça, en fait, au fur et à mesure. Je le crée avec une communauté de pairs, de gens qui font le même travail que moi. On en parle énormément. C'est quoi la question de responsabilité qu'on a en étant là-dedans, que ce soit en tant que facilitateur ou leader de communauté comme je suis, ou en tant que accompagnatrice, coach en sexualité somatique. On a une responsabilité vis-à-vis des personnes avec qui on travaille. On a une responsabilité sur comment on se présente, comment on interagit, avec qui on interagit. Fait que c'est extrêmement présent aussi en ce moment dans les milieux justement de tantra, de spiritualité, parce qu'il y a beaucoup d'abus dans ces milieux-là. Parce que sous couvert de sexual healing, on fait n'importe quoi. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais je suis en train d'essayer d'avancer dans cette direction-là, puis de trouver une façon de faire ça dans laquelle... la dimension de dynamique de pouvoir, elle est consciente. Elle est consciente chez moi en tant que, avec les rôles que j'occupe, mais aussi pour ma communauté, de justement d'empower les gens, de leur donner des outils pour qu'ils sachent, eux, décider c'est quoi leur consentement, pour qu'ils aient cette capacité-là, et aussi de me montrer dans un, tantôt on parlait vie privée, vie publique, il y a cette dimension d'authenticité puis de vulnérabilité que je cherche à amener aussi dans mon rôle pour ne pas devenir une gourou intouchable dont tout le monde a peur. Mais que les gens voient, je suis une vraie personne, j'ai des émotions, je rush, je ne suis pas intouchable, je n'ai pas la vérité, je suis vraiment dans une perspective de on va l'explorer, on va le découvrir ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai pour toi.
Et je trouve que c'est important, c'est intéressant que tu aies utilisé le mot gourou, c'est aussi dans ta bio de dire que t'es pas ton usual sex gourou, parce que là tu dis que tu es en train d'inventer ou de participer à créer ces nouveaux espaces, et moi ça me fait penser au yoga qui était, alors ça fait longtemps que c'est dans le monde occidental, mais il y a eu plein de scandales dans les, je sais pas, 20 dernières années, moi, depuis que j'ai commencé le yoga, de gens qui prennent trop de place en fait, qui deviennent ces fameux gourous, où il y a plein de scandales et où il n'y a plus de limites, et en fait on ne sait plus qui. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est quelque chose qui a inventé. Comme tu es une femme, c'est un cliché, mais j'aurais tendance à plus te faire confiance qu'un gourou homme.
Oui, oui. Et je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur One Taste Institute, le Orgasmic Meditation. C'est une femme qui lit ça. Donc, il peut y avoir des abus de pouvoir de la part des femmes aussi. Mmh. Et effectivement, c'est vrai qu'en tant que femme, je suis un peu plus protégée. Puis c'est triste. Je veux dire, mais j'ai malheureusement, tu sais, je travaille avec des hommes aussi dans mon travail, entre autres avec mon partenaire amoureux, et lui, il sent une responsabilité peut-être un peu plus élevée que moi par rapport à ça. Et moi, je suis devenue en fait plus consciente de ces responsabilités-là à cause de quelque chose qui s'est passé pour lui. Donc, c'est-à-dire vraiment de fait de voir quelque chose qui s'est passé pour lui en tant qu'homme, je suis comme, oh shit, ça pourrait être moi aussi. Et parce que je suis une femme, j'ai la chance, grâce ou à cause, je ne sais pas, de la société, qu'il y a des choses qu'on pourrait me passer. Donc, c'est vraiment, c'est des questions qui sont en réflexion constante. Et quand on est dans ce qu'on est en train de faire, c'est l'émergence d'une nouvelle culture qui se crée tranquillement, qui est une culture sexpositive, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres pièces de ça qui se passent pas juste à Montréal, qui se passent partout dans le monde. Donc, on essaye vraiment de s'inspirer de différents projets, différents programmes. J'imagine que ce qui s'est passé au Hacienda, ça a soulevé toutes sortes de réflexions, de discussions. Donc, de vraiment rester à l'écoute de tout ça pour voir comment on peut créer des espaces qui sont, on dit en anglais, safe enough, relativement sécuritaires. Et pour moi, ça passe principalement par l'empowerment des gens qui participent à ces événements, de leur donner le plus d'outils et de capacités possibles pour qu'eux prennent des décisions. Et ça m'est arrivé avec mes clients en one-one ou même dans ma communauté que des gens me confrontent. Et j'adore ça, en fait. Pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ne sont pas en train de prendre ce que je dis pour, genre, j'ai raison, puis on peut, tu sais, j'ai envie d'être challengée, j'ai envie d'être confrontée, j'ai envie qu'on me dise, hey, là, tu as un blind spot, puis là, il faut que tu travailles là-dessus. Moi personnellement ou la structure que je crée, tu sais, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je grandis, donc de me faire challenger, tu sais, de me remettre en question constamment finalement.
Mais c'est vrai qu'on est d'une génération, on n'a pas encore parlé d'âge, mais on est d'une génération où la question du consentement, elle est venue tard. Moi, dans mon développement de ma sexualité, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, enfin, c'était pas une question, en fait, à l'époque, quoi. C'était, ouais, elle dit non, ça veut dire oui. Enfin, c'était comme ça qu'on a été élevés, quoi.
Ouais. Et en plus, avec notre culture française qui est relativement machiste, donc oui, vraiment. Et puis moi, j'ai été victime de cette culture-là par rapport aux autres, mais aussi par rapport à moi-même. Et j'ai réalisé quand j'ai découvert il y a quelques années que je portais du trauma, qu'en fait, je me suis auto-abusée pendant des années en n'écoutant pas mon consentement parce que je ne savais pas. C'est au-delà de la capacité de dire oui ou de dire non. Je ne savais pas ce que je voulais, ce que mon corps voulait. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément, particulièrement avec les femmes, qu'il y a comme un décalage entre ce que notre tête veut et ce que notre corps est prêt, ce à quoi notre corps est prêt. Donc, de travailler cette reconnexion, puis le terme somatique, c'est vraiment ça, c'est on reconnecte le corps, les émotions, l'esprit pour qu'il y ait une circulation de l'information qui se fasse de manière plus fluide. Et c'est quelque chose que je trouve qui manque encore dans la discussion sur le consentement aujourd'hui dans l'espace public. On parle beaucoup de consentement. Ah oui, il faut demander, puis il faut dire oui ou non. Cool, c'est une super belle première étape. Mais ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Puis c'est là où moi, le travail que je fais s'inscrit, c'est-à-dire qu'on pratique à dire les choses, mais aussi à écouter qu'est-ce qu'on veut vraiment. Quels sont nos désirs, quelles sont nos limites, dans quelle situation on est capable de nommer ça. Parce que c'est une chose de le pratiquer dans un moment où on n'est pas complètement excité, mais quand tu es au milieu de l'action, que tu es vraiment dedans, tu as beaucoup de plaisir, et qu'il y a quelque chose que tu fais parce que tu es vraiment dans le truc, et après coup, tu fais wow, ok, ça, j'étais pas vraiment d'accord. C'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Ce n'est pas nécessairement un viol, ce n'est pas nécessairement un abus, mais c'est quelque chose qui affecte. Et la prochaine fois, on risque de moins se laisser aller. Donc, c'est toutes des choses, justement, de devenir plus conscient de ça et de voir comment est-ce qu'on peut devenir meilleur à s'écouter soi-même et à le communiquer avec des partenaires qui vont être ouverts à nous recevoir.
C'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à cette idée du temps qui passe et du temps qui soit va soigner, soit va détériorer les choses dans une relation longue durée ou pas nécessairement dans une relation longue durée avec l'âge qui avance. Il peut y avoir moins de sexe ou du sexe est différent ou un certain désaccord ou quoi, alors que tu peux aussi avoir un réveil ou un éveil à tes désirs profonds si tu fais attention à ça. Je dis tu, je vais pas dire en général, quoi. Cette idée du temps qui passe, pour toi, elle n'est pas suffisante, j'imagine, parce que dans ton métier, tu as envie qu'on vienne te voir, qu'on vienne voir une coach, quoi. Mais qu'est-ce que ça, ce temps qui passe, qu'est-ce que ça t'évoque, quoi? Ça peut aller dans les deux sens, quoi.
Ouais, mais c'est je suis pas sûre de comprendre exactement, mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, puis ce qui vient pour moi, ce qui résonne pour moi, c'est vraiment cette question que la sexualité, c'est quelque chose qui évolue, mais en fait, comme n'importe quelle relation. Il y a Esther Perel, qui est une sexothérapeute américaine, mais européenne-américaine, qui dit que dans une relation, on a plusieurs relations et que les couples qui restent ensemble longtemps, c'est des couples qui sont capables de faire ces transitions. Donc, quand on a des enfants, on a une période où on est des parents, puis ensuite les enfants quittent, puis on devient autre chose. Et moi, je travaille énormément avec des gens qui sont à une période de leur vie où ils ont réalisé des objectifs de vie, je dirais traditionnels, donc ils ont réussi, ils sont entrepreneurs, ils sont... Et ils arrivent à quelque part où ils sont « Oh, il manque quelque chose dans ma vie ». Ils réalisent que bien que sur le papier, tout est un oui, il manque de quoi. Et souvent, c'est des périodes justement autour de, je dirais, entre 45 et 60 ans, particulièrement pour les hommes, mais j'ai aussi des femmes avec qui je travaille là-dessus, où ils sont dans une redécouverte d'eux-mêmes. Pour les femmes, ça va être au travers de la ménopause aussi. Il peut y avoir des séparations là-dedans, des moments où on est comme « bon, mais je me redécouvre dans mon intimité, dans ma capacité d'être en lien, dans ma capacité d'avoir du plaisir ». Fait que pour moi, le temps, j'ai pas une vision du temps qui est linéaire, mais imaginons que ça l'est, il y a vraiment quelque chose dans le fait de prendre de l'âge où on se connaît mieux, on est plus confortable avec qui on est moins dans le paraître et dans le faire plaisir à l'autre. Et là, on se questionne vraiment sur ce qu'on veut. Puis c'est vraiment beau ce qui se passe. Je travaille aussi avec des couples qui sont ensemble depuis 20, 30 ans et qui recherchent à réactiver cette flamme. Puis c'est pas nécessairement rallumer la flamme parce qu'ils n'ont plus de désir. C'est des gens qui s'aiment. Là, il y a énormément d'amour entre eux. C'est juste retrouver le chemin de ce qu'ils avaient avant avec la personne qu'ils sont devenus aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un super beau chemin qu'on soit célibataire dans un début de nouvelle relation, dans une relation qui est là depuis plusieurs dizaines d'années. Pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de richesse de faire ce travail-là à cet âge-là.
Oui, je pense que c'est vrai que ma question était plus une observation sur qu'est-ce que le temps peut faire. Et j'aime beaucoup ta réponse. Justement, toi, tu as quel âge, Élodie ?
Et je vais avoir 38 ans dans quelques mois.
Et tu te sens comment par rapport à ton âge?
Je t'avouerai que là, le 38, il est comme « Oh, ok, je m'en vais vers la quarantaine ». Mais jusqu'à maintenant, ma trentaine, ça a vraiment été… j'ai adoré. J'ai adoré être dans ma trentaine. Il y a vraiment eu quelque chose qui a changé en moi dans la façon dont je me sens. Oui, il y a le travail que je fais autour de moi, c'est le travail sur moi, mais pour moi, ce travail, je peux le faire parce que je me sens comme assise dans moi. Je me sens mieux dans mon corps. Je pense que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que dans les dernières années. Je sens un pic d'énergie aussi. Et puis, je le vois autour de moi. Là, on est comme la plupart de mes amis. Bon, on est beaucoup des gens sans enfants. Donc, ça aide aussi. Mais on est dans la réalisation, dans l'actualisation de soi. On est dans des pics de carrière, de projets, d'idées. C'est vraiment beau. Fait que je me faisais justement cette réflexion hier, à quel point cette période de la vie, elle est belle. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont passés dans la quarantaine, qui s'enlignent plus vers les 45, 50. J'ai même des personnes de mon entourage qui ont 50, 52 et je suis tellement fascinée par ce qu'ils font. Moi, ça me donne vraiment espoir. Je suis excitée de la suite.
Je t'ai entendue dans un autre podcast parler de tes fêtes d'anniversaire et comme de rassemblement. Qu'est-ce que tu fêtes quand tu fêtes ton anniversaire?
Il y a quelque chose de rituel à l'anniversaire. Je vais reprendre le terme d'un de mes amis qui a écrit un livre sur le sujet « Marquer le temps ». C'est le titre du livre. L'idée, c'est vraiment de marquer un moment, un cycle. Pour moi, le fait de marquer ce cycle représente, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière où j'étais là et cette année où je suis là? Fait que c'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de la vie, c'est à propos du groupe d'amis que je rassemble qui change. Mes groupes d'amis ont beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années. C'est à propos de qu'est-ce qui émerge. Il y a quelque chose dans l'inconnu aussi. On m'engage dans un nouveau cycle, donc on est face à de l'inconnu. C'est un peu ça que je célèbre et que je ritualise dans ces événements-là.
Élodie, on arrive à la fin de notre entretien, mais est-ce que j'ai raté une question? Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose? Je ne voudrais pas être passée à côté de quelque chose dans ta vie professionnelle, les changements.
Ah, les changements dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce qui me vient? Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire là? Je suis encore dans une nouvelle transition. J'ai l'impression que c'est constamment. En fait, j'arrive, tu sais, je me dépose quelque part. Là, ça fait 5 ans que je suis sur la création et le tien, Ecstatic Tempo. Et je sens que j'arrive à la fin de quelque chose, d'un cycle. Je viens de créer une organisation à but non lucratif, justement pour relâcher une partie de la gestion de ce projet-là. Et je suis excitée par la prochaine étape. Donc, en ce moment, je suis en train de faire une formation de domination professionnelle. Que je regarde, ça fait 2 ans que je regarde ça de l'œil et
De
tout.
domination professionnelle, qu'est-ce que ça veut
Ouais.
dire?
D'offrir des services de BDSM, donc de pratiques, ça serait difficile à expliquer dans ce contexte, mais c'est une. On utilise les jeux de pouvoir, des jeux de sensations qui ne sont pas nécessairement dans la douleur et dans l'humiliation, bien que c'est l'image que les gens ont. Dans laquelle une personne décide de donner son pouvoir pendant un délai de temps spécifique. Et moi, je lui offre une expérience, je lui fais vivre une expérience basée sur, encore une fois, qui a une dimension érotique à ça, mais qui va être basée sur des sensations, sur un jeu psychologique, sur des jeux de pouvoir, sur le fait d'être contraint, d'être restreint psychologiquement ou physiquement. Et il y a énormément de puissance dans ce travail-là parce qu'on touche à des espaces qui sont. Des espaces inconscients dans la psyché de la personne. Fait que pour moi, c'est vraiment d'utiliser cet outil-là pour accompagner quelqu'un à libérer, encore une fois, des blocages, des émotions, des choses comme ça, pour devenir quelqu'un qui est plus dans son pouvoir, qui est plus épanoui. Fait que ça, c'est la prochaine étape pour moi d'intégrer quelque chose que je fais déjà un petit peu, mais d'intégrer plus de ces outils-là dans mon travail avec mes clients en individuel pour toujours supporter l'évolution. Personnel de chaque personne, de ces gens-là.
J'aime bien que tu es, enfin, corrige-moi si c'est pas ça, mais j'ai l'impression que tu es toujours en formation, que tu es toujours en train d'apprendre des nouvelles choses
C'est
et que du coup, tu l'intègres.
absolument ça. Je suis constamment, je me limite pour ne pas faire plus de formation pour des raisons de temps et d'argent, très honnêtement, et aussi parce que c'est beaucoup à intégrer à chaque fois. Mais pour juste mettre un chiffre, hein, ça fait quelques années que je dépense entre 10 et 15 000 dollars canadiens par an pour mes formations. Je fais 3 à 5 formations par an. Donc, c'est des formations qui peuvent être sur plusieurs mois ou qui sont une semaine intensive dans laquelle on fait 12 heures par jour. Puis là, je viens de commencer cette nouvelle formation de domination. J'en ai une autre qui s'en vient au mois de mai. J'en ai une au mois de juillet. Fait que c'est vraiment, c'est pour ça que ça fait aussi partie de ma vie parce que j'ai énormément de plaisir à aller dans ces événements, dans ces formations, dans ces retraites. Et j'apprends toujours énormément sur moi. Donc, c'est autant pour servir mes clients et mon travail que pour moi-même. Donc, oui.
Merci beaucoup, Élodie. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur dans le grand monde d'Internet?
Donc, mon site web ecstaticwisdom.ca, la communauté que j'ai créée à Montréal, ecstatictemple.ca, et Élodie Jouvenot, vous trouverez probablement tous ces sites en tapant mon nom. Ça risque d'être, j'imagine, dans la bio que tu vas publier avec ce podcast.
Tout à fait. Et puis en personne, donc à Montréal.
À Montréal, je travaille aussi en ligne. J'ai des clients aux États-Unis en ce moment. Je peux faire ce travail en ligne, une dimension qui n'est pas accessible, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire en distanciel.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Ce que je retiendrai de cette conversation, plusieurs choses. D'abord, j'adore l'idée de cycle de plusieurs années dans lesquelles on se réalise professionnellement tout en continuant de se former vers un prochain glissement personnel et professionnel, quelque chose qui se fait organiquement. J'admire le fait d'explorer la sexualité sur le plan privé, certes, mais sur le plan professionnel, en fait, pour accompagner d'autres personnes. C'est un peu l'effet que m'avait aussi fait le personnage de Gillian Anderson dans la série de Netflix Sex Education. Je trouve que c'est un domaine à investir ou à réinvestir avec plus de justesse. Et justement, je pense que la justesse est quelque chose qui est ressorti dans l'approche d'Elodie, une certaine finesse dans son approche et une douceur dans sa façon de parler des choses qu'elle appelle l'authenticité et la vulnérabilité. Bref, cette quête personnelle et professionnelle dont parle Elodie, forcément ça me parle, puisque c'est le sujet de What's Next, semaine après semaine. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? Je vous retrouve sur whatsnextmathilde.substack.com où vous pourrez partager vos réactions sur cet épisode. Il faut qu'on commence une conversation sur le sujet. Je suis curieuse de vous lire. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.